Dès que Karénine eut compris, grâce à Betsy et Oblonsky, que tous et Anna la première attendaient de lui qu'il délivrât sa femme de sa présence, il se sentit absolument troublé. Incapable d'une décision personnelle, il remit son sort entre les mains de Thiers, trop heureux d'avoir à s'en mêler, et fut prêt à accepter tout ce qu'on lui proposa. Il ne revint à la réalité qu'au lendemain du départ d'Anna, lorsque l'Anglaise lui fit demander si elle devait dîner à table ou dans la chambre des enfants. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ d'Anna, Alexis Alexandrovitch continua ses réceptions, se rendit au conseil et dîna chez lui comme d'habitude. Toutes les forces de son âme n'avaient qu'un but, paraître calme et indifférent. Il fit des efforts surhumains pour répondre aux questions des domestiques relativement à mesures à prendre pour l'appartement d'Anna et ses affaires, de l'air d'un homme préparé aux événements et qui n'y voit rien d'extraordinaire. 2 jours, il réussit à dissimuler sa souffrance, mais le troisième, il succomba. Un commis introduit par la domestique apporta une facture qu'Anna avait oublié de solder. « Votre Excellence voudra bien nous excuser, dit le commis, et nous donner l'adresse de madame, si c'est à elle que nous devons nous adresser. » Alexis Alexandrovitch sembla réfléchir, se détourna et s'assit près d'une table. Longtemps, il resta ainsi, la tête appuyée sur sa main, essayant de parler sans y parvenir. Corneille, le domestique, comprit son maître et fit sortir le commis. Resté seul, Karénine sentit qu'il n'avait plus la force de lutter, fit dételer sa voiture, ferma sa porte et ne dîna pas à table. Le dédain, la cruauté qu'il croyait lire sur le visage du commis, du domestique, de tous ceux qu'il rencontrait, lui devenait insupportable. S'il avait mérité le mépris public par une conduite blâmable, il aurait pu espérer qu'une conduite meilleure lui rendrait l'estime du monde. Mais il n'était pas coupable, il était malheureux, d'un malheur odieux, honteux. Et les hommes se montreraient d'autant plus implacables qu'ils souffraient davantage. Ils l'écraseraient comme les chiens achèvent entre eux une pauvre bête qui hurle de douleur. Pour résister à l'hostilité générale, il devrait cacher ses plaies, hélas. 2 jours de lutte l'avaient déjà épuisé. Et personne à qui confier sa souffrance. Pas un homme dans tout Pétersbourg qui s'intéressât à lui, qui eût quelque égard, non plus pour le personnage haut placé, mais pour le mari désespéré. Alexis Alexandrovitch avait perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Il ne se souvenait pas de son père. Son frère et lui étaient restés orphelins avec une très modique fortune. Leur oncle Karénine, un homme influent, très estimé du défunt empereur, se chargea de leur éducation. Après de bonnes études au gymnase et à l'université, Karénine débuta brillamment grâce à cet oncle dans la carrière administrative et se voua exclusivement aux affaires. Jamais il ne se lia d'amitié avec personne. Son frère seul lui tenait au cœur, mais celui-ci, entré aux affaires étrangères et envoyé en mission hors de Russie peu après le mariage d'Alexis Alexandrovitch, était mort à l'étranger. Karénine, nommé gouverneur en province, y fit la connaissance de la tante d'Anna, une femme fort riche, qui manœuvra habilement pour rapprocher de sa nièce ce gouverneur jeune, sinon hommage, du moins au point de vue de sa position sociale. Alexis Alexandrovitch se vit un jour dans l'alternative de choisir entre une demande en mariage ou une démission. Longtemps il hésita, trouvant autant de raisons contre ou pour le mariage. Mais il ne put cette fois appliquer sa maxime favorite « Dans le doute, abstiens-toi ». Un ami de la tante d'Anna lui fit entendre que ses assiduités avaient compromis la jeune fille et qu'en homme d'honneur, il devait se déclarer. C'est ce qu'il fit et dès lors, il reporta sur sa fiancée d'abord, puis sur sa femme, la somme d'affection dont sa nature était capable. Cet attachement exclut chez lui tout autre besoin d'intimité. Il avait de nombreuses relations, pouvait inviter à dîner de grands personnages, leur demander un service, une protection pour quelques solliciteurs. Il pouvait même discuter et critiquer librement les actes du gouvernement devant un certain nombre d'auditeurs, mais là se bornaient ses rapports de cordialité. Les seules relations familières qu'il eut à Pétersbourg étaient son chef de cabinet et son médecin. Le premier, Michel Vassilievitch Studine, un galant homme, simple, bon et intelligent, paraissait plein de sympathie pour Karénine. Mais la hiérarchie du service avait mis entre eux une barrière qui arrêtait les confidences. Aussi, après avoir signé les papiers qu'il lui apportait, Alexis Alexandrovitch trouva-t-il impossible, en regardant Sludine, de souffrir à lui. Sa phrase « Vous savez, mon malheur » était sur ses lèvres, il ne put la prononcer, et se borna en le congédiant à la formule habituelle « Vous aurez la bonté de me préparer ce travail. » Le docteur, dont Karénine savait les sentiments bienveillants, était fort occupé, et il semblait qu'il se fût conclu un pacte tacite entre eux, par lequel tous deux se supposaient surchargés de besogne et forcés d'abréger leurs entretiens. Quant aux amis et à la principale d'entre elles, la comtesse Lydie, Karénine n'y songeait même pas. Les femmes lui faisaient peur et il n'éprouvait pour elles que de l'éloignement. Mais si Alexis Alexandrovitch avait oublié la comtesse Lydie, celle-ci pensait à lui. Elle arriva précisément à cette heure de désespoir solitaire où, la tête entre ses mains, il s'était affaissé immobile et sans force. Elle n'attendit pas qu'on l'annonçât et pénétra dans le cabinet de Karénine. « J'ai forcé la consigne, » dit-elle, entrant à pas rapide, essoufflée par l'émotion et l'agitation. « Je sais tout, Alexis Alexandrovitch, mon ami !» Et elle lui serra la main entre les siennes et le regarda de ses beaux yeux profonds. Karénine se leva, dégagea sa main en fronçant le sourcil et lui avança un siège. « Veuillez vous asseoir. Je ne reçois pas parce que je suis souffrant, comtesse, » dit-il, les lèvres tremblantes. « Mon ami, » répéta la comtesse sans le quitter des yeux. Ses sourcils se relevèrent de façon à dessiner un triangle sur son front, et cette grimace enlaidit encore sa figure jaune, naturellement laide. Alexis Alexandrovitch comprit qu'elle était prête à pleurer de compassion, et l'attendrissement le gagna. Il saisit sa main potelée et la baisa. « Mon ami, » dit-elle encore d'une voix entrecoupée par l'émotion, « vous ne devez pas vous abandonner ainsi à votre douleur. Elle est grande, mais il faut chercher à la calmer. »« Bouf, je suis brisé, tué. Je ne suis plus un homme, » dit Alexis Alexandrovitch, abandonnant la main de la comtesse, tout en regardant toujours ses yeux remplis de larmes. « Ma situation est d'autant plus affreuse que je ne trouve ni en moi ni hors de moi d'appui pour me soutenir. »« Vous trouverez cet appui, non pas en moi, quoique je vous supplie de croire à mon amitié, » dit-elle en soupirant, « mais en lui. Notre appui est dans son amour. Son joug est léger, » continua-t-elle avec ce regard exalté que Karénine lui connaissait bien. Il vous entendra et vous aidera. » Ces paroles furent douces à Alexis Alexandrovitch, quoiqu'elles témoignassent d'une exaltation mystique nouvellement introduite à Pétersbourg. « Oh, je suis faible, anéanti. Je n'ai rien prévu autrefois et ne comprends plus rien maintenant. Mon ami, « ce n'est pas la perte que je fais, » continua Alexis Alexandrovitch, « que je pleure. Oh non, mais je ne pus me défendre d'un sentiment de honte aux yeux du monde pour la situation qui m'est faite. C'est mal, je n'y puis rien. Mais ce n'est pas vous qui avez accompli l'acte de pardon si noble qui m'a comblé d'admiration, c'est lui. Aussi n'avez-vous pas à en rougir, dit la comtesse en levant les yeux avec enthousiasme. Karénine s'assombrit et serrant ses mains l'une contre l'autre en fit craquer les jointures. Si vous saviez tous les détails, dit-il de sa voix perçante, les forces de l'homme ont des limites et j'ai trouvé la limite des miennes, comtesse. Ma journée entière s'est passée en arrangements domestiques découlant, il appuya sur le mot, de ma situation solitaire. Les domestiques, la gouvernante, les comptes, ces misères me dévorent à petit feu. Hier à dîner, c'est à peine si je me suis contenu. Je ne pouvais supporter le regard de mon fils. Il n'osait pas me faire de questions, et moi, je n'osais pas le regarder. Il avait peur de moi. Mais ce n'est rien encore. Et Karénine voulut parler de la facture qu'on lui avait apportée, sa voix tremblante, et s'arrêta. Cette facture sur papier bleu, pour un chapeau et des rubans, était un souvenir poignant. Il se prenait en pitié en y songeant. « Je comprends, mon ami, je comprends tout, » dit la comtesse. « L'aide et la consolation, vous ne les trouverez pas en moi. Mais si je suis venu, c'est pour vous offrir mes services. Essayez de vous délivrer de ces petits soucis misérables auxquels vous ne devez pas vous abaisser. C'est une main de femme qu'il faut ici. Me laisserez-vous faire ?» Karénine se tut et lui serra la main avec reconnaissance. « Nous nous occuperons tous deux de Serge. Je ne suis pas très entendu quant aux choses de la vie pratique, mais je m'y mettrai et serai votre ménagère. Ne me remerciez pas, je ne le fais pas de moi-même. Comment ne serais-je pas reconnaissant ? Mais mon ami, ne cédez pas au sentiment dont vous parliez tout à l'heure. Comment rougir de ce qui a été le plus haut degré de la perfection chrétienne ? Celui qui s'abaisse sera élevé, et ne me remerciez pas. Remerciez celui qu'il faut prier. En lui seul nous trouverons la paix, la consolation, le salut, l'amour. » Elle leva les yeux au ciel, et Alexis Alexandrovitch comprit qu'elle priait. Cette phraséologie qu'il trouvait autrefois déplaisante paraissait aujourd'hui à Karénine naturelle et calmante. Il n'approuvait pas l'exaltation à la mode. Sincèrement croyant, la religion l'intéressait principalement au point de vue politique. Aussi les enseignements nouveaux lui étaient-ils antipathiques par principe. Mais la comtesse, que ces nouvelles doctrines enthousiasmaient, n'avait pas son approbation, et au lieu de discuter sur ce sujet, il détournait généralement la conversation et ne répondait pas. Mais cette fois, il la laissa parler avec plaisir, sans la contredire même intérieurement. Je vous suis bien reconnaissant pour vos paroles et vos promesses, dit-il quand elle eut fini de prier. La comtesse serra encore la main de son amie. Maintenant je me mets à l'œuvre, dit-elle, effaçant en souriant les traces de larmes sur son visage. « Je vais voir Serge et ne m'adresserai à vous que dans les cas graves. » La comtesse Lydie se leva et se remit auprès de l'enfant. Là, tout en baignant de ses larmes les joues du petit garçon effrayé, elle lui apprit que son père était un saint et que sa mère était morte. La comtesse remplit sa promesse et se chargea effectivement des détails du ménage, mais elle n'avait rien exagéré en avouant son incapacité pratique. Ses ordres ne pouvaient raisonnablement s'exécuter, aussi ne s'exécutait-il pas, et le gouvernement de la maison tomba insensiblement entre les mains du valet de chambre Corneille. Celui-ci habitua peu à peu son maître à écouter, pendant sa toilette, les rapports qu'il jugeait utile de lui faire. L'intervention de la comtesse n'en fut pas moins utile. Son affection et son estime furent pour Karénine un soutien moral, et, à sa grande consolation, elle parvint presque à le convertir. Du moins, changea-t-elle sa tiédeur en une chaude et ferme sympathie pour l'enseignement chrétien tel qu'il se répandait depuis peu à Pétersbourg. Cette conversion ne fut pas difficile. Karénine, comme la comtesse, comme tous ceux qui préconisaient les idées nouvelles, étaient dénués d'une imagination profonde, c'est-à-dire de cette faculté de l'âme grâce à laquelle les mirages de l'imagination même exigent pour se faire accepter une certaine conformité avec la réalité. Ainsi, ils ne voyaient rien d'impossible ni d'invraisemblable à ce que la mort existât pour les incrédules et non pour lui, à ce que le péché fut exclu de son âme parce qu'il possédait une foi pleine et entière dont seul il était juge, à ce que, dès ce monde, il put considérer son salut comme certain. La légèreté et l'erreur de ces doctrines le frappaient néanmoins par moments. Il sentait alors combien la joie causée par l'irrésistible sentiment qu'il avait poussé au pardon était différente de celle qu'il éprouvait maintenant, que le Christ habitait son âme. Mais, quelque illusoire que fût cette grandeur morale, elle lui était indispensable dans son humiliation actuelle. Il éprouvait l'impérieux besoin de dédaigner du haut de cette élévation imaginaire ceux qui le méprisaient, et il se cramponnait à ses nouvelles convictions comme à une planche de salut. La comtesse Lydie avait été mariée fort jeune. D'un naturel exalté, elle rencontra dans son mari un bon enfant très riche, très haut placé et fort dissolu. Dès le second mois de leur mariage, son mari la quitta, répondant à ses effusions de tendresse par un sourire ironique, presque méchant, que personne ne parvint à s'expliquer, la bonté du comte étant connue, et la romanesque Lydie n'offrant aucune prise à la critique. Depuis lors, les époux, sans être séparés, vécurent chacun de leur côté, le mari n'accueillant jamais sa femme qu'avec un sourire amer qui resta une énigme. La comtesse avait depuis longtemps renoncé à adorer son mari, mais elle était toujours éprise de quelqu'un, et même de plusieurs personnes à la fois, hommes et femmes, généralement de ceux qui attiraient l'attention d'une façon quelconque. Ainsi, elle s'éprit de chacun des nouveaux princes ou princesses qui s'alliaient à la famille impériale, puis elle aima successivement un métropolitain, un grand vicaire et un simple desservant, ensuite un journaliste, trois slavophiles et Komissarov, puis un ministre, un docteur, un missionnaire anglais, et enfin Karénine. Ses amours multiples et leurs différentes phases de chaleur ou de refroidissement ne l'empêchaient en rien d'entretenir les relations les plus compliquées, tant à la cour que dans le monde. Mais du jour où elle prit Karénine sous sa protection, qu'elle s'occupa de ses affaires domestiques et de la direction de son âme, elle sentit qu'elle n'avait jamais sincèrement aimé que lui. Ses autres amours perdirent toute valeur à ses yeux. D'ailleurs, en analysant ses sentiments passés et en les comparant à celui qu'elle ressentait maintenant, pouvait-elle ne pas reconnaître que jamais elle ne se serait éprise de Komissarov s'il n'eût sauvé la vie de l'empereur, ni de Rishtich si la question slave n'avait pas existé. Tandis qu'elle aimait Karénine pour lui-même, pour sa grande âme incomprise, pour son caractère, pour le son de sa voix, son parler lent, son regard fatigué et ses mains blanches et molles aux veines gonflées. Non seulement elle se réjouissait à l'idée de le voir, mais encore elle cherchait sur le visage de son ami une impression analogue à la sienne. Elle tenait à lui plaire, autant par sa personne que par sa conversation. Elle ne s'était jamais mise en frais de toilette. Plus d'une fois, elle se surprit réfléchissant à ce qu'aurait pu être s'ils eussent été libres tous les deux. Quand il entrait, elle rougissait d'émotion et ne pouvait réprimer un sourire ravi lorsqu'il lui disait quelques paroles aimables. Depuis plusieurs jours, la comtesse était vivement troublée. Elle avait appris le retour d'Anna et de Vronsky. Comment épargner à Alexis Alexandrovitch la torture de revoir sa femme? Comment éloigner de lui l'odieuse pensée que cette affreuse femme respirait dans la même ville que lui et pouvait à chaque instant le rencontrer? Lydie Ivanovna fit faire une enquête pour connaître les plans de ces vilaines gens, comme elle nommait Anna et Vronsky. Le jeune aide de camp, ami de Vronsky, chargé de cette mission, avait besoin de la comtesse pour obtenir, grâce à son appui, la concession d'une affaire. Il vint donc lui apprendre qu'après avoir terminé leurs arrangements, ils comptaient repartir le lendemain. Et Lydie Ivanovna commençait à se rassurer lorsque on lui apporta un billet dont elle reconnut aussitôt l'écriture. C'était celle d'Anna Karénine. L'enveloppe en papier anglais épais comme une écorce d'arbre contenait une feuille oblongue et jaune ornée d'un immense monogramme, et le billet répandait un parfum délicieux. « Qui l'a apporté ?» Un commissionnaire d'hôtel. Longtemps la comtesse resta debout sans avoir le courage de s'asseoir pour lire. L'émotion lui rendit presque un de ses accès d'asthme. Enfin, lorsqu'elle se fut calmée, elle ouvrit le billet suivant, écrit en français. Madame la comtesse, les sentiments chrétiens dont votre âme est remplie me donnent l'audace impardonnable, je le sens, de m'adresser à vous. Je suis malheureuse d'être séparée de mon fils et vous demande en grâce la permission de le voir une fois avant mon départ. Si je ne m'adresse pas directement à Alexis Alexandrovitch, c'est pour ne pas donner à cet homme généreux la douleur de s'occuper de moi. Connaissant votre amitié pour lui, j'ai pensé que vous me comprendriez. M'enverrez-vous Serge chez moi? Ou préférez-vous que je vienne à l'heure que vous m'indiquerez? Ou me ferez-vous savoir comment et dans quel endroit je pourrais le voir? Un refus me semble impossible lorsque je songe à la grandeur d'âme de celui à qui il appartient de décider. Vous ne sauriez imaginer ma soif de revoir mon enfant, ni par conséquent comprendre l'étendue de ma reconnaissance pour l'appui que vous voudrez bien me prêter dans ces circonstances, Anna. » Tout dans ce billet irrita la comtesse Lydie. Son contenu, les allusions à la grandeur d'âme de Karénine et surtout le ton d'aisance qui y régnait. Dites qu'il n'y a pas de réponse, et ouvrant aussitôt son buvard, elle écrivit à Karénine qu'elle espérait bien le rencontrer dans une heure au palais. C'était jour de fête, on allait féliciter la famille impériale. « J'ai besoin de vous entretenir d'une affaire grave et triste. Nous conviendrons au palais du lieu où je pourrai vous voir. Le mieux serait chez moi, où je ferai préparer votre thé. C'est indispensable. Il nous impose sa croix, mais il nous donne aussi la force de la porter, » ajouta-t-elle pour le préparer dans une certaine mesure. La comtesse écrivait de 2 à 3 billets par jour à Alexis Alexandrovitch. Elle aimait ce moyen, à la fois élégant et mystérieux, d'entretenir avec lui des rapports que la vie habituelle rendait trop simples à son gré. Les félicitations étaient terminées. Tout en se retirant, on causait des dernières nouvelles, des récompenses accordées ce jour-là et des mutations de place pour quelques hauts fonctionnaires. Que diriez-vous si la comtesse Marie Borilosna a été nommée au ministère de la guerre et la princesse Vatkeski chef de l'état-major ? Disait un petit vieillard grisonnant, en uniforme couvert de broderies, à une grande et belle demoiselle d'honneur qui le questionnait sur les nouveaux changements. « Dans ce cas, je dois être nommée aide-de-camp, » dit la jeune fille souriant. « Vous, votre place est indiquée. Vous faites partie du département des cultes, et on vous donne pour aide Karénine. »« Bonjour, prince !» fit le petit vieillard, serrant la main à quelqu'un qui s'approchait de lui. « Vous parliez de Karénine ?» demanda le prince. « Lui et Poutianov ont été décorés de l'ordre d'Alexandre Levski. »« Oh, je croyais qu'il l'avait déjà. »« Non, regardez-le !» dit le petit vieillard, indiquant de son tricorne brodé Karénine debout dans l'embrasure d'une porte et causant avec un des membres influents du Conseil de l'Empire. Il portait l'uniforme de cour avec son nouveau cordon rouge en sautoir. « N'est-il pas heureux et content comme un sous-neuf ?» Et le vieillard s'arrêta pour serrer la main à un superbe et athlétique chambellan qui passait. « Non, il a vieilli, » fit le chambellan. « Bon, c'est l'effet des soucis, il passe sa vie à écrire des projets. Tenez, en ce moment, il ne lâchera pas son malheureux interlocuteur avant de lui avoir tout expliqué, point par point. » « Comment vieillit ? Il fait les passions ? La comtesse Lydie doit être jalouse de sa femme. »« Oh, je vous en prie, ne parlez pas de la comtesse Lydie. »« Y a-t-il du mal à être éprise de Karénine ?»« Madame Karénine est-elle vraiment ici ?»« Pas ici au palais, mais à Pétersbourg. »« Je l'ai rencontrée hier avec Alexis Vronsky, Vadsu Vadsu, à la Morskaya. » Bon, « c'est un homme qui n'a pas... » commença le chambellan, mais il s'interrompit pour faire place et saluer au passage une personne de la famille impériale. Tandis qu'on critiquait et ridiculisait ainsi Alexis Alexandrovitch, celui-ci barrait le chemin à un membre du Conseil de l'Empire et, sans bouger d'une ligne, lui expliquait tout au long un projet financier. Alexis Alexandrovitch, presque en même temps qu'il avait été abandonné par sa femme, s'était trouvé dans la situation pénible pour un fonctionnaire de voir s'arrêter la marche ascendante de sa carrière. Seul peut-être il ne s'apercevait pas qu'elle fut terminée. Sa position était encore importante. Il continuait à faire partie d'un grand nombre de comités, de commissions, mais il paraissait être de ceux dont on n'attend plus rien. Il avait fait son temps. Tout ce qu'il proposait semblait vieux, usé, inutile. Loin d'en juger ainsi, Karénine croyait au contraire apprécier les actes du gouvernement avec plus de justesse, depuis qu'il avait cessé d'en faire directement partie et pensait de son devoir d'indiquer certaines réformes à introduire. Il écrivit une brochure, peu après le départ d'Anna, sur les nouveaux tribunaux, la première de toutes celles qu'il devait composer sur les branches les plus diverses de l'administration. Et que de fois, satisfait de lui-même et de son activité, ne songea-t-il pas au texte de saint Paul « Celui qui a une femme songe au bien terrestre, celui qui n'en a pas ne songe qu'au service du Seigneur. » L'impatience bien visible du membre du conseil ne troublait en rien Karénine, mais il s'interrompit au moment où un prince de la famille impériale vint à passer, et son interlocuteur en profita pour s'esquiver. Resté seul, Alexis Alexandrovitch baissa la tête, chercha à rassembler ses idées et, jetant un regard distrait autour de lui, se dirigea vers la porte où il pensait rencontrer la comtesse. « Comme ils ont l'air forts et bien portants !» se dit-il, regardant au passage le cou vigoureux du prince, serré dans son uniforme, et le beau chambellan aux favoris parfumés. « Il n'est que trop vrai, tout est mal en ce monde. »« Alexis Alexandrovitch !» cria le petit vieillard, dont les yeux brillaient méchamment, tandis que Karénine passait en saluant froidement. « Je ne vous ai pas encore félicité !» Et il désigna la décoration. « Je vous remercie infiniment, c'est un beau jour que celui-ci, » répondit Karénine, appuyant selon son habitude sur le mot « beau ». Il savait que ces messieurs se moquaient de lui, mais, n'entendant que des sentiments hostiles, il y était fort indifférent. Les épaules jaunes de la comtesse et ses beaux yeux pensifs lui apparurent et l'attiraient de loin. Il se dirigea vers elle avec un sourire. La toilette de Lydie Livnadovna lui avait coûté des efforts d'imagination, comme toutes celles que dans ces derniers temps elle prenait le soin de composer, car elle poursuivait un but bien différent de celui qu'elle se proposait 30 ans auparavant. Jadis, elle ne songeait qu'à se parer et n'était jamais trop élégante selon son goût. Maintenant, elle cherchait à rendre le contraste supportable entre sa personne et sa toilette. Elle y parvenait aux yeux d'Alexis Alexandrovitch, qui la trouvait charmante. La sympathie, la tendresse de cette femme était pour lui un refuge unique contre l'animosité générale. Du milieu de cette foule hostile, il se sentait attiré vers elle comme une plante vers la lumière. « Je vous félicite !» dit-elle, portant ses regards sur la décoration. Karénine haussa les épaules et ferma les yeux à demi. La comtesse savait que ces distinctions, sans qu'il en voulût convenir, lui causaient une de ses joies les plus vives. « Et que fait notre ange ?» demanda-t-elle, faisant allusion à Serge. « Je ne puis dire que j'en sois très satisfait, » répondit Alexis Alexandrovitch, levant les sourcils et ouvrant les yeux. « Sitnikov ne l'est pas davantage. » C'était le pédagogue chargé de Serge. Comme je vous le disais, je trouve en lui une certaine froideur pour les questions essentielles qui doivent toucher toute âme humaine, même celle d'un enfant. Et Alexis Alexandrovitch entama le sujet qui, après que les questions administratives le touchaient le plus, l'éducation de son fils. Jamais jusque-là les questions d'éducation ne l'avaient intéressé. Mais ayant senti la nécessité de suivre l'instruction de son fils, il avait consacré un certain temps à étudier des livres de pédagogie et des ouvrages didactiques afin de se former un plan d'études que le meilleur instituteur de Pétersbourg fut ensuite chargé de mettre en pratique. Oui, mais le cœur, je trouve à cet enfant le cœur de son père, et avec cela... « Peut-il être mauvais ?» dit la comtesse d'un air sentimental. « Oh, peut-être, pour moi, je remplis mon devoir, c'est tout ce que je puis faire. »« Vous viendrez chez moi, » dit la comtesse après un moment de silence. « Nous avons à causer d'une chose triste pour vous. J'aurais donné tout au monde pour vous épargner certains souvenirs. D'autres ne pensent pas de même. » « J'ai reçu une lettre d'elle. Elle est ici, à Pétersbourg. » Alexis Alexandrovitch tressaillit, mais son visage prit aussitôt l'expression de mortelle immobilité qui indiquait son impuissance absolue à traiter un pareil sujet. « Oh, je m'y attendais, » dit-il. La comtesse le regarda avec exaltation et devant cette grandeur d'âme, des larmes d'admiration jaillirent de ses yeux. Lorsqu'Alexis Alexandrovitch entra dans le boudoir de la comtesse Lydie, décoré de portraits et de vieilles porcelaines, il n'y trouva pas son amie. Elle changeait de toilette. Sur une table ronde était posé un service à thé chinois près d'une bouilloire à esprit de vin. Alexis Alexandrovitch examina les innombrables cadres qui ornaient la chambre, s'assit près d'une table et y prit un évangile. Le frôlement d'une robe de soie vint le distraire. Enfin, nous allons être un peu tranquilles, dit la comtesse, en se glissant avec un sourire ému entre la table et le divan. Nous pourrons causer en prenant notre thé. Après quelques paroles destinées à le préparer, elle tendit en rougissant le billet d'Anna à Karénine. Il lut et garda longtemps le silence. Oh, je ne me crois pas le droit de lui refuser, dit-il enfin, levant les yeux avec une certaine crainte. Mon ami, mais vous ne voyez le mal nulle part. Oh, je trouve au contraire le mal partout, mais serait-il juste de... Son visage exprimait l'indécision, le désir d'un conseil, d'un appui, d'un guide, dans une question aussi épineuse. « Non, interrompit Lydie Ivanovna, il y a des limites à tout. Je comprends l'immoralité, dit-elle sans aucune véracité, puisqu'il ignorait pourquoi les femmes pouvaient être immorales. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la cruauté, et envers qui? Envers vous. Mais comment peut-elle rester dans la même ville que vous? On n'est jamais trop vieux pour apprendre, et moi, j'apprends tous les jours à comprendre votre grandeur. » Et sa bassesse. Qui de nous jettera la première pierre? Dit Karénine, visiblement satisfait du rôle qu'il jouait. Après avoir tout pardonné, puis-je la priver de ce qui est un besoin de son cœur, son amour pour l'enfant? Est-ce bien de l'amour, mon ami? Tout cela est-il sincère? Vous avez pardonné, vous pardonnerez encore, je le veux bien. Mais avons-nous le droit de troubler l'âme de ce petit ange? Il la croit morte, il prie pour elle, et demande à Dieu le pardon de ses péchés. Que penserait-il maintenant? Oh, je n'y avais pas songé, dit Alexis Alexandrovitch, en reconnaissant la justesse de ce raisonnement. La comtesse se couvrit le visage de ses mains et garda le silence. Elle priait. « Si vous demandez mon avis, dit-elle enfin, vous ne me donnerez pas cette permission. Ne vois-je pas combien vous souffrez, combien votre blessure saigne? Admettons que vous fassiez abstraction de vous-même, mais où cela vous mènera-t-il? Vous vous préparez de nouvelles souffrances et un trouble nouveau pour l'enfant. Si elle était encore capable de sentiments humains, elle serait la première à le sentir. » Non, non, je n'éprouve aucune hésitation, et si vous m'y autorisez, je lui répondrai. Alexis Alexandrovitch y consentit, et la comtesse écrivit en français la lettre suivante. Madame, votre souvenir peut donner lieu de la part de votre fils à des questions auxquelles on ne saurait répondre sans obliger l'enfant à juger ce qui doit rester sacré pour lui. Vous voudrez donc bien comprendre le refus de votre mari dans un esprit de charité chrétienne. Je prie le Tout-Puissant de vous être miséricordieux. Comtesse Lydie. Cette lettre atteignit le but secret que la comtesse se cachait à elle-même. Elle blessa Anna jusqu'au fond de l'âme. Karénine, de son côté, rentra chez lui troublée, ne put reprendre ses occupations habituelles, ni retrouver la paix d'un homme qui possède la grâce et se sent élu. La pensée de cette femme, si coupable envers lui et pour laquelle il avait agi comme un saint, au dire de la comtesse, n'aurait pas dû le troubler. Cependant, il n'était pas tranquille. Il ne comprenait rien de ce qu'il lisait et ne parvenait pas à chasser de son esprit les réminiscences cruelles du passé. Il se rappelait comme un remords l'aveu d'Anna au retour des courses. Pourquoi n'avait-il alors exigé d'elle que le respect des convenances? Pourquoi n'avait-il pas provoqué Vronsky en duel? C'était ce qui le troublait par-dessus tout. Et la lettre écrite à sa femme, son inutile pardon, les soins donnés à l'enfant étranger, tout lui revenait à la mémoire et brûlait son cœur de honte et de confusion. Mais en quoi suis-je donc coupable ? Se demandait-il. À cette question en succédait toujours une autre. Comment aimaient, comment se mariaient les hommes de la trempe des Bronski, des Oblonski, des Chambellans à la belle prestance ? Il évoquait une série de ces êtres vigoureux, sûrs d'eux-mêmes, forts, qui avaient toujours attiré sa curiosité et son attention. Quelque effort qu'il fit pour chasser de semblables pensées et se rappeler que le but de son existence n'étant pas de ce monde mortel, la paix et la charité devaient seuls habiter son âme, il souffrait comme si le salut éternel n'eût été qu'une chimère. Heureusement, la tentation ne fut pas longue, et Alexis Alexandrovitch reconquit bientôt la sérénité et l'élévation d'esprit grâce auxquels il parvenait à oublier ce qu'il voulait éloigner de sa pensée.